milieu des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau genre littéraire exclusivement français est-il en train de s'installer ? Un an exactement après le consentement de Vanera Springora et aussi presque un an après le livre de Virginie Linhart, L'élément maternel, quelques mois après le livre de Raphaël Enthoven, Le temps gagné, voici en tout cas que paraît La Familia Grande de Camille Kouchner, un nouveau livre écrit par les enfants de ce que l'on appelle Saint-Germain-des-Prés, dénonçant des relations assez complexes avec leur milieu d'origine, des relations plus ou moins graves. Dans le registre des plus graves et qui pose le plus de problèmes, à l'abus sexuel et à l'emprise intellectuelle d'un écrivain sur une adolescente décrit par Springora, succède cette fois une affaire d'inceste commis vers la fin des années 80 sur un adolescent par son beau-père, un intellectuel de gauche et homme de pouvoir. Une fois de plus, le milieu et l'héritage de mai 68 sont mis au banc des accusés par un livre qui se situe à mi-chemin entre le livre littéraire et le document. Tout comme Vanessa Springora laissait la presse donner le nom de son prédateur désigné par une initiale dans le livre, ce sont les médias, Le Monde et Le Nouvel Observateur en particulier, qui avant même la sortie du livre, ont jeté à l'opinion, alors que les faits sont proscrits, le beau-père en question, à savoir Olivier Duhamel, qui n'est pas nommé dans le livre et dont le commun des mortels a appris à cette occasion qu'en plus de co-animer chaque jour sur Europe 1 l'émission Mediapolis et de commenter l'actualité politique sur LCI, il régnait entre autres sur la Fondation Nationale des Sciences Politiques qui finance Sciences Po, sur le cercle de réflexion le siècle, deux hauts lieux du pouvoir intellectuel français. La presse People s'est aussitôt emparée de l'affaire pour taper sur toutes les figures publiques reconnaissables dans le livre et dénoncer l'omerta dont bénéficieraient les anciens 68ards pour se livrer à leur turpitude. Plus encore que le consentement, donc, la sortie de La Familia Grande met à jour des questions contradictoires posées par un livre traitant d'un monde qui a longtemps régné par l'endogamie et qui est en train d'exploser. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Raphaël Baquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez écrit de nombreux livres, dont un livre sur Richard Descoings, Richie, chez Grasset, en 2015. Et vous avez écrit un article récemment, Sciences Po, au cœur du pouvoir d'Olivier Duhamel, dans Le Monde, le 8 janvier dernier. Marie Dauzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, vous êtes déjà venue dans cette émission pour parler d'Édouard Louis notamment. Vous êtes aussi co-signataire d'une tribune parue en mars 2020 après la cérémonie des Césars, signée par 114 avocates pénalistes et féministes qui s'appelait « Aucune accusation n'est jamais la preuve de rien, il suffirait sinon d'asséner de sa seule vérité pour prouver et condamner ». Enfin, Raphaël Enthoven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous êtes donc l'auteur du Temps gagné dont je parlais tout à l'heure.
C'est vrai.
Et vous allez nous dire ce que vous pensez de ce livre.
Oui.
Voilà. Alors, je vais commencer d'abord peut-être par la sortie du livre plus que par le livre lui-même parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est un livre dont d'une certaine manière le contenu n'aurait pas vraiment été explicite sans le mode d'emploi fourni par Le Monde et par Le Nouvel Observateur, dans des articles qui sont sortis pour Le Monde surtout, avant le livre lui-même. Donc quand on a eu le livre en main, on l'a lu avec, en quelque sorte, l'enquête faite par Le Monde, enquête qui n'est pas le livre lui-même, où personne n'est nommé, Raphaël Baquet.
Non, mais justement, quand on a lu ce livre, quand Le Monde en a eu connaissance, il nous a semblé indispensable d'abord de vérifier, puisque ce n'est pas la victime directe qui témoigne, Camille Kouchner, c'est la sœur de la victime. Donc c'est pour ça que Le Monde et Ariane Chemin, en l'occurrence, ont fait l'enquête pour savoir ce qu'il en était. Savoir d'abord si la victime elle-même attestait des accusations, si Olivier Duhamel aussi ce qu'il pouvait en dire, ce que les personnages qui sont cités et qui sont identifiables, même si leur nom n'est pas toujours donné, pouvaient raconter de cette affaire, puisque elle mêle pas seulement une victime supposée et un coupable virtuel, mais aussi tout un milieu. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette enquête. Si nous avions eu un doute sur le témoignage, si nous avions eu un doute sur les faits qui avaient été rapportés, nous n'aurions pas donné le même écho à ce livre. Donc il était indispensable de faire cette enquête, oui, justement. C'est pas seulement pour en assurer la promotion, vous voyez.
Oui, non, mais vous voyez le problème que ça pose. C'est-à-dire qu'on a un texte littéraire où certaines personnes sont nommées, mais pas les principaux protagonistes. C'est-à-dire la victime est désignée par un prénom fictif. Le coupable présumé n'est jamais nommé. On retrouve certains éléments qui étaient déjà présents dans le consentement, c'est-à-dire les initiales, le jeu avec, pas exactement avec l'autofiction, mais en tout cas avec un certain flou sur certains éléments. Il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement dans le livre et qu'on ne pourrait pas comprendre si la presse, si vous n'étiez pas venu derrière pour expliquer ce qui se passait. Et par ailleurs, il se pose évidemment le problème de la prescription. Marie Dosé, c'est pas la première fois qu'on voit. On a de plus en plus de textes comme ça, de livres qui paraissent depuis quelque temps, qui sont à mi-chemin qui sont un peu bâtards, qui sont à mi-chemin entre la littérature, le document qui ne dit pas son nom, la mise en accusation, et puis finalement. On ne sait pas quel statut leur donner.
Oui, c'est ça. J'allais répondre à Raphaël Becquet que sa chronologie n'est pas la nôtre, celui du lecteur. C'est-à-dire que vous avez découvert un livre que le lecteur n'a pas découvert et ensuite nous découvrons, nous, votre enquête avant l'œuvre littéraire. Ce qui le colore, évidemment. Alors moi, d'autant plus, je suis avocat. Donc, j'ai cette double particularité, c'est-à-dire d'avoir eu d'abord entre vos mains votre travail et ensuite l'objet littéraire, comme tout le monde. Mais de surcroît, j'ai le regard forcément de l'avocat, omnibulé certes par la présomption d'innocence, qui a aussi évidemment conscience, parce que je le vis dans ma chair d'avocate, du traumatisme que représente l'inceste et les viols sur mineurs de 15 ans, mais également de la nécessité toujours et encore de sauvegarder cette prescription, parce que tout ceci s'accompagne de débats, immanquablement, et d'ailleurs de la part de l'auteur, encore il y a un jour ou deux, je crois, qui évoquait peut-être la nécessité de rendre rétroactives certaines lois, qui dénonçaient plus ou moins le caractère prescriptif de certaines infractions. Tout ça est dangereux, parce que en 48 heures, tous les registres sont mêlés, et finalement, ça n'est plus une œuvre littéraire que nous lisons, mais un débat de société, un sujet de société, ou quelque chose qui confirme ou infirme une enquête. Donc c'est vrai que cette nébuleuse-là me pose, moi, difficulté.
C'est-à-dire qu'on lit un témoignage qui se présente sous forme littéraire, mais qui ne va pas jusqu'au bout du témoignage, puisqu'il n'accuse pas nommément, mais qui est relayé par une presse qui accuse nommément. Et vous me disiez, Marie Dosé, avant l'émission, que à la limite il allait falloir supprimer la prescription pour pouvoir défendre les gens mis en cause.
Alors moi je suis une fervente défenseur de la prescription, évidemment, hein, je garderai cela en tête jusqu'au bout. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que et c'est assez surprenant, c'est même assez vertigineux. Je me dis, mais c'est en réalité l'imprescriptibilité qui va finir par protéger la présomption d'innocence, le secret de l'information, le secret de l'enquête. Parce que finalement, le lynchage est tel et l'impossibilité de se défendre d'une accusation qui, de toute façon, est prescrite sur le plan judiciaire, c'est finalement l'imprescriptibilité qui va redonner un peu de présomption et d'encadrement à ce type d'accusation. Mais j'entends bien, c'est pas parce qu'un crime est prescrit qu'on ne peut plus en parler. J'entends ça. Mais il y a énormément de façons de parler. Et puis, il va y avoir un vrai problème. Et c'est cet automatisme désormais d'ouverture d'une enquête préliminaire pour vérifier que c'est prescrit.
Oui.
Alors, vous avez vu, maintenant, depuis quelques années, le parquet nous explique que dès l'instant où, dans un livre, ou lorsqu'est rendu public une accusation comme celle-là, c'est prescrit, mais on ouvre une enquête pour le vérifier. Alors, deux problèmes. D'abord, on n'a jamais eu besoin d'ouvrir une enquête pour vérifier si des faits sont prescrits ou pas. Ou alors, on est très mauvais juriste et je pense que le parquet n'est pas là pour s'insulter. Mais surtout, ça va être de poids de mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va concerner un certain milieu. Ceux qui ont, effectivement, eh bien, soit la chance, soit la possibilité de rendre public par l'art, par le film, par l'écrit, ce qu'ils ont vécu. Mais pour toutes celles et ceux qui ont été violés à 5 ans, 6 ans, 7 ans, par leur beau-père, par leur grand-père, et qui seront effectivement dans l'intimité d'une famille, mais qui jamais ne pourront le rendre public d'une façon artistique ou autre, là, le parquet n'en saura jamais rien, tout simplement parce que ça n'aura pas été rendu public, et donc il n'y aura pas d'ouverture d'information. Et pourquoi d'ailleurs? Juste pour que on constate ce qu'on sait déjà, c'est que l'infraction est prescrite. Alors on vous dit aussi pour voir s'il n'y a pas eu d'autres victimes. Mmh. Un autre problème dans le livre, 2011, il y a déjà eu un classement sans suite. On rouvre quelque chose qui a déjà été clôturé. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai lu hier, puisque j'ai lu ce livre hier. En 2011, il y avait déjà un parquet qui avait décidé de pas poursuivre. Mmh. Et qui avait déjà constaté la prescription. Ouais. Donc voilà.
Ouais. Raphaël Entoven.
Oui, ceux dont vous parlez, ceux qui n'ont pas accès à la littérature, à l'édition, ceux qui ne peuvent pas dire publiquement ce qui leur est arrivé, ceux qui n'ont pas cette force-là, ou ce talent-là, ou l'entregent nécessaire pour le faire, ceux-là, à mon sens, sont plutôt ravis qu'un livre de cette nature existe, c'est-à-dire qu'il existe enfin des gens qui soient en mesure de faire le bon usage de la surface sociale dont ils disposent et qui leur permettent précisément de mettre au jour ce qui, sans cela, resterait dans le secret des familles. Il faut bien s'entendre sur ce qu'est une famille. J'entendais Raphaël Baquet tout à l'heure parler de tout un milieu. Vous avez raison. Le Saint-Germain-des-Prés a ses tartuffes. Le progressisme a ses tartuffes. L'idéologie libertaire a ses tartuffes. Ces tartuffes-là ne datent pas des années 80, des années 70, ni même de Saint-Germain-des-Prés. Romain Gary le décrivait lui-même dans Lady L. Le père de Lady L est un ultra-féministe qui lutine sa fille et qui se fait torcher par sa femme. Je veux dire, ça date pas d'hier, ça fait bien longtemps qu'on est hypocrite aussi de cette façon-là. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe là va au-delà de la question de Saint-Germain-des-Prés, sur la présomption d'innocence, c'est encore autre chose, mais va au-delà de la question de Saint-Germain-des-Prés pour concerner les familles. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Une famille n'est pas seulement un lieu d'amour et de solidarité, c'est aussi un mécanisme dont la fonction est de taire les infamies qu'on y commet, et de taire ou de silencer, si j'ose ce verbe. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que, et ce que vous disiez, Marie Dosé, sur la présomption d'innocence serait recevable à cet égard, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que il ne s'agit pas de dire quelque chose, de dire quelque chose. Il s'agit de faire entendre quelque chose qui a déjà été dit. Le meilleur exemple, la meilleure transposition de l'histoire à laquelle nous assistons et qu'on peut lire dans le livre de Camille Kouchner, c'est Festen. Festen n'est pas exactement une famille de Saint-Germain-des-Prés, hein. On est dans un patriarcat suédois, scandinave, avec...
Vous parlez du film, hein.
Oui, le film de Thomas Vinterberg, qui est peut-être, à mon avis, le meilleur film du monde, où c'est un père de famille, c'est un patriarche tout puissant, qui se voit dire par son fils aîné, la lumière de sa vie, le jour de ses 60 ans, qu'il l'a violé, lui et sa sœur, pendant des années, tranquillement, sous les yeux de sa mère. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est au début du film quand le fils dit ça. Et tout le travail du film n'est pas de parvenir à dire ça, mais de parvenir à faire entendre cette chose une fois qu'elle a été dite. Or, cette chose-là, en ce qui concerne, j'en reviens au livre de Camille Kouchner, la chose a été dite, la chose a tourné. Oh, c'était l'écho d'un écho, on en avait tous entendu parler, si j'ose dire, et ce « on » est celui d'un milieu aussi. Mais c'est vrai, chacun en avait entendu parler, très nombreux étaient les gens qui se disaient « peut-être », et qui n'y regardaient pas davantage. Cette chose-là a été tue, après avoir été dite, elle ne pouvait, pour être dite véritablement, c'est-à-dire pour être véritablement entendue. On est en présence de l'indicible. L'indicible, c'est pas ce qu'on peut pas dire, c'est ce qu'on peut ne pas entendre même quand on l'a dit. Et là, il faut la littérature. C'est là qu'il faut la littérature, c'est là qu'il faut un livre qui, effectivement, alors, bafoue la présomption d'innocence. Olivier Duhamel serait fondé à porter plainte d'une certaine manière.
C'est-à-dire que le livre lui-même ne bafoue pas.
Pose des tas de problèmes en tout cas, parce que c'est l'article qui l'accompagne pose des tas de problèmes en termes de présomption d'innocence. Lui-même, Olivier Duhamel serait fondé peut-être à porter plainte. Je doute qu'il le fasse. Je doute qu'il le fasse. Plus au-delà de la question de la présomption d'innocence ou de la prescription, il me semble que précisément, il y a là, on est ici en présence juridiquement d'un fait prescrit. Profondément, intimement, d'un fait absolument imprescriptible, dont le récit vaut exemple pour ceux qui n'ont pas accès au même canot.
Non, mais sur le principe, je pense qu'on est d'accord. Là, simplement, il me semble que le livre se situe. Il y a un désir de littérature et en même temps, il y a un recours aux documents. Par exemple, pourquoi Raphaël Baquet, pourquoi ne pas avoir plutôt fait traiter le livre par la rubrique littéraire?
Mais parce que, écoutez, c'est pas une œuvre littéraire, enfin, écoutez.
Bah, c'est les deux.
Laissons parler Raphaël.
C'est intéressant, c'est très intéressant.
Voilà. Non, mais revenons sur Terre. C'est quand même pas une œuvre littéraire en soi. C'est d'abord et avant toute chose, un témoignage. Alors, il peut être bien écrit ou avoir des effets de style, mais la vérité, c'est que c'est une charge extrêmement forte.
On peut parfaitement faire les deux en même temps.
Oui, mais en l'occurrence, Moi, je, enfin bon.
L'œil que vous posez dessus est celui du journaliste. L'œil d'un lecteur, pardonnez-moi, qui ne connaît pas cette histoire, n'est pas moins averti que le vôtre. Parce que ce qu'il y lit là, ce qu'il y découvre, est universel et va bien au-delà de Sanary ou d'Olivier Duhamel.
Oui, mais Raphaël,
et en cela, on est dans la littérature.
Mais précisément, Raphaël, mais c'est tout le problème, il me semble. Le lecteur ne peut pas ignorer cette histoire puisqu'elle a été racontée avant que le livre ne sorte.
C'est le problème de la chronologie.
Oui, exactement, Marie Dosé.
Qu'un livre soit arrimé au réel parce qu'il traduit, il décrit des faits qui ont effectivement eu lieu, c'est une chose, mais que la lecture, que l'œil charitable d'un lecteur s'en extrait un peu et découvre surtout qu'il y a là-dedans quelque chose d'universel, dans cette hypocrisie-là et dans cette monstruosité-là, quelque chose d'universel.
Non, mais qu'est-ce qui vous pose problème ? C'est-à-dire, vous auriez préféré que nous en fassions une critique littéraire, comme si c'était un objet qui ne concernait pas la réalité, et que ensuite on en fasse un décryptage. C'est ridicule.
Moi, rien ne me pose problème. Je pense que l'enquête était nécessaire, qu'il fallait avertir les gens, mais que le paradoxe d'un livre ambivalent comme celui-là, ça je suis le premier à le reconnaître, c'est qu'il peut être lu de deux manières et qu'il n'est pas impossible que ce livre ait une postérité qui dépasse l'hypocrisie d'un milieu ou bien le témoignage ou le document.
Non, mais en plus, je suis pas du tout en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. Je continue à penser qu'il y a un problème de chronologie. C'est tout. Je l'ai dit au début, je le maintiens. Je pense qu'il aurait mieux valu découvrir le livre et ensuite l'enquête. Voilà. Parce que découvrir une enquête sur un livre qui n'est pas encore lu ou qu'on ne peut pas encore lire pose pour moi en tout cas une difficulté parce que nécessairement on va le lire sous un certain prisme. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mais ça rejoint ce que vous disiez, Raphaël Enthoven, c'est que j'ai une difficulté ensuite sur le mélange des registres s'agissant de revendications juridiques. C'est-à-dire que non pas dans la promotion, mais dans les interviews de ci, de là, notamment de cet auteur, je l'entends expliquer qu'il faudrait peut-être revenir sur la non-rétroactivité de la loi pénale, qu'il faudrait peut-être songer à l'imprescriptibilité, et c'est évidemment moi des sujets qui me concernent directement, qui la concernent elle aussi, j'ai pas de difficulté avec ça, mais je pense justement que c'est en 48 heures, tout ce mélange de registres entre la littérature, l'enquête, le juridique, les réformes nécessaires, la proposition de loi qui vient évidemment de débarquer il y a à peu près 4 heures dans les couloirs du Sénat parce qu'il faut aller très vite la semaine prochaine pour pouvoir avoir un nom de parlementaire qui puisse s'arrimer, n'est-ce pas, à cette nouvelle parution littéraire qui me pose une difficulté. Tout va trop vite et dans tous les registres, c'est tout ce que je dis.
Non mais vous avez raison, les institutions s'arriment parfois à l'actualité et c'est ce qu'on voit. Juste un tout petit élément qui est une affaire de cuisine, mais si Olivier Duhamel n'avait pas démissionné de toutes ses fonctions lundi, nous n'aurions pas publié le papier dans la foulée, il était censé attendre. Donc, si vous voulez, c'est pas une organisation qui veut qu'on ait publié l'enquête pour expliquer ce qu'il y aurait dans un livre 3 jours plus tard. Mmh. Il se trouve que Olivier Duhamel a démissionné de toutes ses fonctions et que c'est cela qui a, d'une certaine façon,
qui a hâté la publication.
L'événement. Voilà. Bon, c'est tout. Mais par ailleurs, effectivement, que les institutions judiciaires, notamment, réagissent à l'émoi que ce livre peut susciter dans l'opinion publique, oui, ça c'est sans doute une
idée. Oui, avec des associations de victimes qui depuis 48 heures reviennent sur la question de la prescription, reviennent sur la question de la non-rétroactivité. Bon,
mais ça fait longtemps que c'est leur cheval de bataille.
Mais bien sûr, et à chaque, mais je le sais bien, je le sais bien. Ce que je dis, c'est que il n'y a pas de frontière. Mais je veux pas un mur épais entre les deux. Je dis juste que même les auteurs vont sur ces terrains-là, tout en indiquant c'est un objet littéraire. Mais il y a des revendications à chaque fois sur le volet pénal, sur le terrain judiciaire. Et on l'a vu ensuite sur la condamnation. Je reviens sur un fait divers, mais qui n'est pas qu'un fait divers, sur ce qui s'est passé dans le dossier Prena-Barbarin avec la première dénonciation pour non-dénonciation, qui était évidemment juridiquement un scandale sur lequel la Cour d'appel de Lyon est revenue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, se greffe à tout cela des combats judiciaires qui devraient plutôt être menés dans un autre temps et dans une autre sagesse. Voilà, c'est tout.
Je vais vous donner la parole tout de suite, Raphaël Enthoven. Ce qui se passe, c'est que ce mélange des genres qui est typique depuis un moment d'un courant littéraire. On est au-delà de l'autofiction. On est dans une revendication de la littérature au nom de la vérité, tout en n'allant pas au bout de la vérité. Ce qui fait que quand effectivement le Monde a publié poussé par les événements à publier l'enquête avant la date prévue. Et le résultat, c'est qu'on est obligé de lire le livre pour maintenir une vérité, pour maintenir sa vérité littéraire, entre guillemets. On est obligé de le lire comme s'il s'agissait d'une fiction dans la tête. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire, bon, ben voilà, je vais lire ce livre comme si je ne savais rien de ce qui se passait. Et puis, ça devient une affaire d'inceste comme une autre, universelle, et ça devient de la littérature. Oui. Mais c'est un double jeu qui ne tient pas, en fait. Raphaël Entoven.
Il y a plusieurs questions. La non-rétroactivité et l'imprescriptibilité sont deux questions très différentes. Je suis pas juriste, hein. Donc, mais néanmoins, il me semble que, enfin, je ne verrais pas de problème à ce que ces crimes-là fussent imprescriptibles, devinssent imprescriptibles. Un crime contre l'humanité est imprescriptible. Le viol d'un enfant est exactement un crime contre l'humanité. C'est pas la quantité de victimes qui fait la qualité du crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est on a porté atteinte à l'humanité. On est en présence que ces crimes-là deviennent imprescriptibles ne me semblerait pas un déni de liberté. Au contraire, d'ailleurs, quelque chose d'indispensable. C'est un traumatisme imprescriptible. Pourquoi la sanction, elle, ne le serait-elle pas? Bon, ça c'est une question. C'est une question que je veux laisser ouverte et que je suis content de poser. Dans l'affaire Barbarin, la dénonciation de non-dénonciation, pardon, mais c'était évident. Barbarin savait que Prena avait violé. Barbarin a continué de confier à Prena des responsabilités auprès d'enfants. C'est immonde. C'est comme si François Hollande avait su que Cahuzac avait triché et l'avait maintenu au ministère. On aurait hurlé. Là, voilà. Barbarin, lui, il sait que l'une de ses ouailles est pédophile et il continue à lui confier des enfants. Donc, vous voyez là motif à dénonciation. Et sur la question de la vérité, de quelle vérité parle-t-on? Il y a naturellement la vérité des faits qu'on peut discuter. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Si ça, etc. Bien. Puis il y a une autre vérité. Il y a la vérité universelle de la saloperie des familles et du consensus des familles, de la façon dont les familles s'entendent à ne pas entendre. Et cette vérité-là, qui n'a besoin que d'une chose pour être dite, c'est, et j'emploie à dessein ce mot, c'est de la fiction. Alors, au cinéma, ça prend la forme de Festen. En littérature, ça prend la forme de livres comme cela, mais je ne crois pas qu'on ne soit pas dans la fiction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette rédaction, dans cette façon d'écrire, dans cette façon de décrire, dans ce scrupule mis à ne pas verser dans le manichéisme ou dans la dénonciation, mais parce que le livre ne fait pas ça, mais à décrire finement les choses, à ciseler les émotions, et puis aussi dans le choix de ce que l'auteur fait de ce qu'il raconte, de ce qu'il ne raconte pas, et les liens qu'il établit entre différents faits ou différents souvenirs, il y a là une œuvre littéraire qui témoigne d'une vérité qui va au-delà de la vérité d'un milieu, de la vérité de fait, qui est une vérité universelle, qui est, encore une fois, que ce qui se passe dans les familles est abject, et abject au carré, parce que c'est immédiatement recouvert par des gens qui ont intérêt à ne pas l'entendre.
Mais ça, de ce qui se passe dans les familles, que ce qui se passe dans les familles soit abject, c'est une personne ne va nier ça.
Parce qu'il y a eu des gens pour le raconter, personne ne le nie.
Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses, il y a aussi pas mal de contradictions. On ne peut pas parler à la fois de... Enfin, c'est pas parce qu'un livre, un texte est un objet littéraire que c'est nécessairement de la fiction. Et si ce livre est une fiction, alors qu'est-ce qu'on fait de l'enquête?
C'est pas si contradictoire.
On est au cœur de la contradiction. Marie Dosé, sur la...
D'abord, il faut quand même... On ne peut pas dire tout et n'importe quoi.
On ne peut pas dire n'importe quoi, mais on peut
aussi. Pourquoi pas? D'accord. Sur l'affaire Barbarin, je suis obligée de revenir parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a été relaxé, d'accord, pour non-dénonciation. Et la réalité, ça n'est absolument pas qu'il ait eu connaissance de quoi que ce soit. Il a été, non, s'il vous plaît, je vous donnerai l'arrêt de la cour d'appel. Il a eu connaissance de ce qui s'était passé en 91. Il en a eu connaissance en 2014, d'accord. Il a eu connaissance de faits prescrits. Donc, il a été relaxé de non-dénonciation. S'agissant de faits prescrits,
au terme
tout
de la connaissance qu'il a eu de ces faits en question.
Attendez, Raphaël. Laissez parler Marie Dosé parce qu'on ne va pas parler de l'affaire Barbarin tout pendant notre émission. Attendez, Raphaël, laissez parler Marie Dosé.
C'est ça la difficulté aussi, laisser Barbarin sa honte qui a été relaxé et qui est donc non coupable de dénonciation. Mais vous l'avez décrété, vous, là, à ce micro. Il n'est pas relaxé.
Je le laisse à sa conscience.
Attendez, laissez parler Marie Dosé.
Oui, mais
non, mais laissez parler Marie Dosé.
À un moment donné, il faut aussi acter ce qui est juger. Moi, je veux bien qu'on puisse tous, avec notre conscience, décider qui est coupable, qui a fait le mal et qui a fait le bien. Mais quand on décide que Barbarin est coupable alors qu'il est relaxé, quand on dit, vous vous rendez compte, il les a mis en contact avec des enfants alors qu'il apprend en 2014 ce qu'il s'est passé jusqu'en 1991 et que ce sont des faits prescrits et qu'il ne l'a mis en relation avec aucun enfant entre 1991 et 2014, on se trompe.
Donc vous vous trompez. Par le cardinal
Barbarin. Donc le problème de là, c'est qu'on est tout le temps dans des raccourcis, alors même qu'on parle d'accusations extrêmement graves.
Sur l'imprescriptibilité, je ne sais pas si j'arrive à le dire, Marie Dosé, il faut que ce soit un crime imprescriptible.
Non, évidemment que non. Évidemment, on peut violer
un enfant et 20 ans plus tard, c'est cool en fait.
20 ans?
20 ans, 30 ans, non, non. 40 ans. Il y a un moment où c'est fini.
Il y a un moment où il faut que ce soit fini, oui. Ouais, il faut que ce soit fini. D'accord. Parce que
et que le silence soit définitif.
Non, pas du tout.
J'ai dit exactement
le contraire juste avant. J'ai évidemment dit, ce n'est pas parce qu'un crime est prescrit qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas écrire, qu'il ne faut pas filmer sur
ce livre. Ce livre ne pose aucun problème alors.
Je viens de poser la difficulté sur le mélange des registres, mais je suis pas du tout dans une position qui est de dire, puisque c'est prescrit, plus personne n'a droit à la parole. Je ne suis pas en train de dire ça.
Mais alors quel problème pose ce livre?
Ce livre pose le problème, comme on le dit depuis le début, du mélange.
Si on a le droit d'en parler alors que c'est prescrit, où est le problème de ce livre?
Il est dans le mélange des registres. Ce livre n'est pas une fiction, et pourtant vous pouvez dire que c'est une fiction.
L'emploi du mot fiction qui est malheureux parce que vous restez dessus, je fais comme si c'était des faits imaginaires. Ce ne sont pas des faits imaginaires, je dis que la façon de les raconter accède à l'universel, en dit davantage que les simples faits qu'ils décrivent. C'est cela que j'appelle fiction, Marc. Vous avez écrit suffisamment de livres pour savoir que la fiction, c'est pas simplement d'inventer des trucs qui n'ont pas eu lieu. C'est aussi de les raconter de telle manière qu'on s'y retrouve même quand on les a pas vécus. C'est en ça que je parle de fiction, donc ne me faites pas un mot.
Je tiens à la différence des termes parce que,
ça
n'en est pas une. Et précisément, il me semble que l'un des problèmes dont la littérature contemporaine souffre en France, c'est ce mélange constant de faire appel à la fiction ce qui n'en est pas, et de dire des choses, parce que le livre est flou sur un certain nombre de points. Et sans les articles du Monde et du Nouvel Observateur et puis ceux qui ont suivi, il y a des choses qu'on ne comprendrait pas en lisant le livre. C'est tout de même problématique.
Quelles choses? Qu'est-ce qu'on ne comprendrait pas en lisant le livre?
Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans ce livre qui
nous passerait au-dessus de la tête si on n'avait pas lu l'article du Monde?
Par exemple, la manière dont s'enchaînent après la mort de Marie-France Pisier, la manière dont s'enchaîne l'enquête sur l'inceste, alors qu'il y a prescription et que Victor dans le livre n'a pas porté plainte, tout ça n'est explicité clairement que dans la chronologie qu'on fait.
L'essentiel de ce qu'il y a à comprendre dans ce livre et qui n'a aucun besoin du papier du Monde, auquel on peut faire le reproche de précéder le livre, je peux entendre ça, mais l'essentiel n'est pas ça. L'essentiel, c'est qu'un adulte a mis son sexe dans la bouche d'un enfant de 13 ans en lui disant que c'est cool, c'est pas grave et ne le dis pas à ta mère. Et l'essentiel, c'est que, à en croire le livre, la mère en question a protégé son mari une fois qu'elle a su ça. Oui. Ça, c'est l'essentiel. Ça doit être dit toujours.
Mais évidemment.
Et vive le mélange des genres. Si c'est à ce prix-là qu'on le dit.
Mais ça n'est pas au prix du mélange des genres qu'on le dit.
C'est le cas.
Pas du tout.
Mais même en ce qui concerne
le livre, on n'a pas besoin du mélange des genres pour être écrit.
Si vous racontez une histoire et que c'est la vôtre et que par ailleurs les personnages, les protagonistes sont connus.
Il y a un point que je voudrais soulever sur la question de l'universel de cette histoire qui est telle qu'elle est racontée dans le livre. Effectivement, les sondages sont là pour l'attester. L'inceste est beaucoup plus répandu qu'on ne le dit. Il y a le sondage Ipsos de novembre 2020 dit que 10% de la population française a été confrontée à l'inceste. C'est énorme. Donc l'histoire que raconte Camille Kouchner n'appartient pas en ce sens ni à un milieu, ni à une culture politique, ni à quoi que ce soit de cet ordre. En revanche, la manière dont les choses se passent, c'est plus intéressant, c'est plus spécifique. Il y a une spécificité dans cette histoire qui est intéressante à relever, à commencer par le rapport au droit. C'est-à-dire que tant la mère Évelyne Pisier que Olivier Duhamel sont tous deux docteurs en droit. Et il y a tout un travail de manipulation du langage, de manipulation du droit dans la rhétorique des parents et du milieu qu'ils font vivre, qui me semble intéressante pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu différent. Quand Camille Kouchner dit, par exemple, j'ai protégé mon beau-père face à l'alcoolisme de ma mère, il organisait nos vacances, il m'initiait au droit. C'est-à-dire que c'est le coupable qui initie la sœur de la victime au droit, alors qu'il est lui-même le transgresseur. Et le personnage de la mère, qui est absolument central dans le livre, Evelyne Pizier, elle-même est docteur en droit, et elle est, c'est aussi une militante de gauche, c'est aussi surtout une militante opposée au patriarcat, et qui n'a de cesse d'expliquer le monde à sa fille et à ses enfants, surtout à sa fille. Voilà comment il faut se conduire, voilà comment il faut affirmer sa féminité, voilà comment il faut être libre. Et ce sont ces mêmes gens qui vont pour l'un commettre l'acte de transgression et pour l'autre couvrir l'acte. Alors, je vois Marie Dossé hausser les épaules en disant oui, ben ça arrive, c'est comme ça. Enfin, c'est ce que vous dites, Marie Dossé. Mais c'est quand même, ça me semble quand même spécifique. C'est là où il y a peut-être une spécificité de cette histoire, c'est dans le rapport au langage.
Oh, je ne sais pas. Vous savez, c'est les histoires d'inceste, le secret des familles, la famille est vraiment un lieu clos propice au pire. Hein. Oui. C'est le lieu de la domination, c'est le lieu de la peur du père, de la peur de la mère aussi, de voir tout s'écrouler. C'est vraiment, enfin nous qui sommes pénalistes et qui avons régulièrement affaire à ce type d'affaires, nous savons à quel point, par exemple, ce silence de la mère, il est presque majoritaire. Et une fois que les choses sont dites, d'ailleurs, soit l'enfant n'est pas cru. Soit il est cru, mais on choisit l'autre partie et on fait semblant, jusqu'à des pères qui sont effectivement incarcérés et des mères qui continuent à avoir le père et qui abandonnent les enfants. Nous, on a ça quotidiennement hein, dans nos cabinets. Donc c'est même plus un conflit de loyauté. Ça va au-delà de ça. C'est la famille, lorsque ça s'installe d'année en année, de jour en jour, de nuit en nuit, avec le frère ou la sœur qui à un moment donné deviennent témoins, même indirects, et puis les mots ne se disent pas dans la fratrie, et finalement on va essayer de protéger le plus petit quand on devient plus grand. Tout ça, nous le connaissons, et c'est terrible. Donc je ne hausse pas les épaules parce que ce récit ne m'a pas touchée, mais parce que c'est une histoire qui se décline quel que soit le milieu et quelle que soit la famille concernée. Hein. Mmh. C'est quelque chose de terrifiant, effectivement. Et ça pousse dans le silence, et ça grandit dans le silence. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est finalement la dernière partie, et c'est souvent comme ça, où on se rend compte qu'il faut parler parce que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants ne supporteront pas. De génération en génération, on n'arrivera pas à guérir de ça en continuant à le taire. C'est-à-dire qu'on protège les plus grands, mais que les plus petits, on n'arrivera pas à les protéger de ce qu'on garde en nous pour protéger les parents. Et ça, on le voit aussi dans nos dossiers. C'est très intéressant.
Oui, le déclencheur,
c'est vraiment l'enfant. L'enfant du frère de Victor, ses enfants à elle, l'enfant du frère aîné, c'est comment est-ce qu'on va leur donner ça comme héritage.
Mais parce que ces démarches-là participent à une entreprise commune qui est de remplacer les racines par l'avenir. Gary a écrit Les racines du ciel. Là, ce sont les racines dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est Delphine Horviller, tiens d'ailleurs, quand on lui demande comment définir le judaïsme, nous dit il y a 9000 définitions et on y travaille encore. Enfin, il y en a une qui m'intéresse. Et juif, celui, celle ou celui dont les petits-enfants seront juifs. Mm-hmm. C'est-à-dire que les racines sont à situer dans l'avenir. Il y a, dans des exercices comme cela, une façon de remplacer le fait d'être son passé par le fait d'avoir un passé. Il y a aussi une façon de remettre le monde à l'endroit, c'est-à-dire de se tourner vers l'avenir, d'espérer dans l'avenir, et c'est effectivement écrit pour ceux qui suivront. Et en cela, il y a quelque chose de très important, parce que c'est un livre comme celui-là à valeur d'antidote, ou en tout cas immunise autant qu'il peut les enfants contre des prédations de cet ordre-là. C'est-à-dire, il s'agit de protéger l'avenir. Et un livre comme celui-là fait litière du passé au nom de l'avenir. Et en cela, on peut et on doit comprendre ça. Sur la question du droit, c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites, Marc, que ce sont des professeurs de droit qui, par ailleurs, sont révolutionnaires, dont le discours est révolutionnaire. Donc, on a un maximalisme de la rhétorique et derrière une pratique qui ne l'est pas. Et ça va avec toute une série d'oxymores de ce qu'on a appelé la gauche caviar, c'est-à-dire l'académisme de la subversion. Claudel, c'est mal. Neruda, c'est bien. Les grands bourgeois révolutionnaires ou qui ne sont révolutionnaires que pour les autres et pas pour eux-mêmes. Donc, on est là dans une forme d'hypocrisie qui est une hypocrisie traditionnelle. Mais ce qui est particulier au droit, comme à la psychanalyse, c'est le fait que les gens qui disposent de ces outils-là sont en mesure de convaincre leurs victimes que soit c'est pour leur bien, soit ça n'a pas eu lieu, soit il faut le taire. C'est-à-dire qu'on est en présence là d'une... parmi les éléments de l'emprise, il n'y a pas que l'emprise tutélaire, l'ombre du père, l'ombre portée des parents, etc. Il y a aussi l'emprise intellectuelle.
Oui.
Et la façon qu'on a de façonner l'esprit, c'est-à-dire... l'intelligence n'a jamais guéri de la perversité, mais on peut mettre en revanche une intelligence remarquable au service d'un projet pervers. C'est aussi ça que le livre raconte.
Et ça participe à l'incrédulité aussi du milieu. C'est-à-dire que comme effectivement ce sont à la fois des professeurs de droit, des adeptes de la psychanalyse, des militants de l'émancipation des femmes, leur entourage, lorsqu'il apprend justement l'inceste, est dans une forme d'incrédulité, et ça participe aussi au maintien du silence. Ça ne veut pas dire qu'évidemment il n'y a que dans ces milieux que se produisent les incestes.
On connaît bien
d'autres milieux.
Mais c'est vrai que la
force de ce milieu est d'être ultra initié et en plus de prôner un discours qui va à l'inverse, qui est en contradiction totale avec cet acte.
Mais on peut mettre au service de cet acte, c'est ça qui est intéressant. C'est que les choses sont réversibles suffisamment. Oui. C'est là que la rhétorique est vraiment neutre et c'est l'utilisateur qui en décide. On peut tout à fait mettre le discours libertaire au service de cet acte. Comme on peut d'ailleurs mettre un discours de liberté au service de cet acte en disant, c'est de la délation. Vous avez dit Catherine Clément. Elle dit, c'est de la délation.
C'est ce qui est dit dans le livre d'ailleurs.
C'est de la délation, mais comment dire? C'est comme dire, il faut laver son linge sale en famille. Laver son linge sale en famille, c'est laver de la merde avec de la merde. Ça marche pas. Parler de délation ou parler de pudeur ou dire qu'on devrait garder ça pour soi, ça fait partie de l'éteignoir. C'est un des éléments de la prothèse. C'est un des éléments de l'étouffoir qu'on dépose sur la tête de celui à qui on demande de vivre avec ça. On le lui a mis sur les épaules, on le lui a mis dans le cœur, et on lui demande de vivre avec ça. Et on le maudit de choisir sa liberté aux dépens du confort des gens qui lui ont fait du mal.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, Evelyne ne cesse de dire à sa fille, pense par toi-même, exerce l'esprit critique, pose des questions, regarde tout, sois indépendante. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas regarder, auxquelles il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas formuler. C'est cette dichotomie complètement orwellienne d'une certaine façon qui est infernale en fait. Et qui me semble d'autant plus saillante que ça se passe justement dans un milieu qui maîtrise le langage et qui maîtrise la loi à tous les sens du mot loi.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi parce que là encore on l'éprouve dans notre quotidien professionnel. Ça se passe à un moment donné où la mère va mal.
Oui oui.
Hein, et enfin en tout cas autant elle n'arrive pas à dater avec précision, mais autant elle sait exactement que c'est au moment où la mère va mal, où elle est éteinte, où elle sombre dans une dépression après le suicide de sa propre mère, que l'effet commence. En tout cas, qu'il y a probablement une autorisation, bien sûr, mais que le regard est peut-être moins aiguisé, ou en tout cas l'attention un peu moins précise s'agissant des actes du beau-père qui va finalement se retrouver un peu plus dans la toute-puissance. Ça ne veut pas dire que les mères sont toujours très attentives et toujours à l'écoute. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi parce que c'est souvent le cas. On profite du moment où la mère va mal pour pouvoir effectivement faire le pire.
Oui, la temporalité.
On n'est pas en présence ici d'un patriarcat, mais d'un matriarcat.
En tout cas, le rôle des mères est central.
Le rôle des mères
a toujours été central dans ces affaires.
Dans les affaires d'inceste.
Toujours.
On présente souvent, ce que je veux dire, c'est dans le cas d'Enfesten, c'est ce qu'on voit souvent, on présente souvent la mère comme l'acolyte criminelle. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose parce que c'est le discours normatif, c'est la norme en fait, c'est la norme discursive. C'est à l'intérieur du cadre éthique, juridique, libertaire, fixé par la mère, que les choses se passent, même si la maison et les murs sont ceux du beau-père.
Sur la chronologie est effectivement importante. Ça se passe en 88, ça commence en 88, puis en 90, dit le livre, il y a un changement social aussi. C'est à partir des années 90, vraiment, que Duhamel devient une sorte de ponte, vraiment, que le pouvoir se fait jour. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de milieu dans cette histoire, Raphaël Baquet?
Les deux, si vous voulez. Enfin, on l'a dit abondamment, l'inceste peut se produire dans tous les milieux. Ce qui frappe là, c'est que, à un moment, l'inceste est dit. Et il est dit assez abondamment, en fait.
La première fois?
En 2011, en fait.
En 2011.
Oui,
en 2011.
Voilà, c'est 2011. Ça, oui, c'est ça. Et puis, vraiment, ensuite, il est dit de façon récurrente dans ce milieu. Or, c'est vrai que la position du beau-père, probablement, parce qu'il est très puissant et que d'une certaine façon, il règne sur un certain milieu, hein, qui est le milieu des élites politico-médiatiques, disons. C'est vrai que cette information, cette nouvelle stupéfiante, inacceptable, insupportable, eh ben, elle tombe dans un puits sans fond.
Ça se passe par coïncidence, pratiquement, enfin, la première divulgation de la formation de l'inceste dans ce milieu se passe par coïncidence à peu près au moment de l'affaire Strauss-Kahn, au moment du, et Olivier Duhamel va se fendre d'un article défendant Strauss-Kahn et Anne Sinclair, dont il est l'ami.
Ce sont des choses tout à fait différentes.
Hein.
On est bien d'accord.
Mais pour les victimes, elles paraissent des provocations.
Voilà.
Donc elles sont très importantes.
Ça c'est certain.
Et le fait qu'effectivement il monte au créneau à plusieurs reprises pour défendre, en l'occurrence, des hommes qui sont accusés d'agression sexuelle. Encore plus insupportable, Raphaël, pour Camille Kouchner et son jumeau.
Mais Raphaël, la puissance ou la surface sociale d'Olivier Duhamel, si c'était ça qui avait empêché que les choses soient dites, l'affaire Strauss-Kahn elle-même aurait été étouffée. Les gens très puissants sont aussi des cibles formidables.
Oui, c'est vrai.
Leur statut, leur position éminente fait qu'on a plaisir à les abattre ou à leur tirer dessus. Et surtout quand on sent que le vent tourne. Je ne crois pas que la position d'Olivier Duhamel ait été ce qu'il a préservé de la chose. Ce qu'il a préservé de la chose, c'est manifestement ce que raconte Camille Kouchner dans son livre. C'est le désir que la chose ne soit pas dite.
Alors, oui,
c'est aussi ça.
À la fin du livre un passage que je trouve assez intéressant où elle parle de ça. Le seul moment où elle évoque vraiment directement l'aspect milieu, où elle dit certains de ceux qui ont su sont ravis d'avoir à se taire. Un tel devoir atteste de leur appartenance à un monde. Il est une marque supplémentaire et toujours nécessaire de leur identité. À gauche, comme dans la grande bourgeoisie, on lave son linge sale en famille. Être dans la confidence est pour les plus faibles d'entre eux un moyen renouvelé de témoigner leur soumission à mon beau-père, l'outil le plus efficace pour prêter allégeance au souverain et lui jurer fidélité. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez perçant là-dessus.
Mais surtout, dénoncer l'inceste, évidemment, c'est faire s'écrouler une famille. Et là, en plus de faire s'écrouler une famille, il y a faire s'écrouler, et c'est bien pour ça que ça s'appelle la familia grande, c'est-à-dire au-delà de la famille en tant que telle, la famille, des amis, des réseaux, c'est ça aussi qui angoisse, et c'est ce qu'elle raconte.
C'est vrai, mais dénoncer l'inceste, c'est construire une famille, c'est pas faire écrouler une famille.
Bien sûr.
Dénoncer l'inceste, c'est rendre la famille possible, c'est-à-dire c'est rendre la possibilité, c'est se donner à soi-même la possibilité de faire une famille.
C'est ce qui motive le silence de ceux qui ne veulent pas justement.
Ce qu'elle écrit, c'est qu'il est insupportable de devoir protéger ses propres enfants, de ne plus pouvoir voir sa mère sans avoir peur pour eux, s'agissant du beau-père. Et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui donne le déclic. Justement pour construire cette famille à venir, parce qu'on ne peut pas protéger éternellement les enfants de ce qui a pu se passer. C'est ça ?
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Benjamin Perru, Fong Mai Tran, Gaël Brauzek, Julien Bourdet, Francesca Fossati, Franck Malabry, Wojciech Noiret. Dans un instant, une histoire particulière.
In montagna sotto l'ombra di un bel fiore e le genti che passeranno oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao.